RCF.
Bonjour. Je suis Thierry Lyonnais, grand reporter à RCF, et la marche est depuis des années l'activité que je préfère. Alors je suis allé tendre mon micro à des marcheurs, hommes, femmes, célèbres ou moins connus, qui eux aussi ont cette même passion pour la marche. Marche et rêve, un podcast pour tous ceux que l'envie de liberté démange. Sonia et Alexandre Poussin, c'est pour mettre vos pas dans les pas de l'homme, au sens des origines, que vous avez réalisé cette incroyable marche de 14 000 km du Cap de Bonne-Espérance en Afrique du Sud jusqu'au bord du lac de Tibériade en Israël. 3 ans de marche à la rencontre d'hommes et de femmes d'une dizaine de pays que vous avez traversés. Depuis, vous avez réalisé un autre grand voyage à pied à Madagascar, mais cette fois-ci avec une charrette à zébu et vos 2 enfants. 4 ans de marche très lente autour de cette grande île rouge. Alors vous êtes écrivain, voyageur, réalisateur de documentaires. Et dans l'un de vos livres, Alexandre, vous avez écrit ceci. Ce livre s'intitule « Marche avant ». La marche possède des pouvoirs insoupçonnés. Elle permet de partir à la découverte du globe, bien sûr, mais aussi et surtout à la découverte de l'autre et de soi-même. Est-ce qu'il faut comprendre, Alexandre Poussin, que la marche est pour vous le meilleur moyen pour voyager ?
C'est le moyen le plus naturel, le plus simple, le premier moyen. C'est ce que fait un petit homme quand il se lève et qu'il fait un premier pas. Et ça va conditionner sa vie. Et je crois que notre société aujourd'hui souffre du fait qu'on ne marche plus assez. On est aujourd'hui dans une société de plus en plus virtuelle, où on croit qu'on peut vivre et appréhender le monde à travers des écrans, ou à travers des ordinateurs, à travers les doigts, et à travers une conception intellectuelle du monde. Alors que je pense que nos pieds et le déplacement de notre corps est consubstantiel de notre nature humaine. Même presque, c'est la définition de l'homme, c'est celui qui marche.
Mais vous avez beaucoup voyagé autrement. Vous avez voyagé en vélo, on se souvient, avec Sylvain Tesson. Vous avez voyagé comme tout le monde, en bus, en train. La marche a quelque chose de particulier à offrir aux voyageurs ?
D'encore plus humain, parce que c'est plus lent, c'est plus naturel encore. Le vélo, avec Sylvain, on avait adoré. Hein. On fait le tour du monde en un an. C'est hyper rapide, c'est hyper efficace, un vélo. C'est trop efficace, d'ailleurs. C'est trop rapide.
Vous alliez trop vite, quoi.
Ben oui. Et on fait 25 000 km en un an, on traverse 35 pays, mais on est hyper superficiel. Et puis surtout, on est toujours sur la route. Et la route, c'est une toute petite partie du monde. C'est toujours les mêmes camionneurs, c'est toujours les mêmes problématiques. C'est toujours lutter pour sa survie, la sécurité. C'est le struggle for drive, parce qu'on a peur de se faire écraser. Donc la route, c'est très limitatif. Alors que la marche permet d'aller partout. La marche, c'est le plus court chemin pour aller vers l'autre.
Alors Sonia, comment est-ce que vous avez réagi quand Alexandre vous a proposé, comme voyage de noces, c'est quand même pas mal, il fallait oser, de traverser l'Afrique à pied, du Cap de Bonne-Espérance jusqu'au bord du lac de Tibériade en Israël, 14 000 km, 3 ans de marche. Comment vous avez réagi ?
Comment j'ai réagi ? En fait, je m'en doutais un peu quand même, hein.
Vous avez préparé ?
En le côtoyant, je me doutais que ça me pendait un peu au nez, mais j'avais réussi à rester un petit peu en dehors de tout ça parce qu'il faisait ses aventures avec Sylvain Tesson. Et donc moi, j'étais très respectueuse de leur amitié, leur très belle amitié. Et donc, je n'étais pas question un seul instant que je m'interpose entre eux, même si j'étais la douce amie d'Alexandre. Ça n'avait rien à voir avec tout ça. Mais au fur et à mesure, à son contact, je me rendais compte que petit à petit, moi qui étais plutôt une petite Parisienne sans histoire et plutôt...
Oui, même quelques expériences d'action humanitaire, de voyage au Vietnam.
Mais quand même rien à voir avec Alexandre.
Mais pas une marcheuse, quoi.
Ben je pensais que non, pas vraiment une marcheuse. En tout cas, je ne le savais pas. Finalement, il s'est avéré que j'étais une bête de marche.
Plus que lui, plus résistante que lui, finalement.
Pas plus que lui, mais autant que lui.
Plus adaptée.
D'une autre manière, en fait. Mais disons, moi, je suis plutôt dans l'endurance. C'est-à-dire que moi, je suis une bête de... de fond. En fait, on ne m'arrête pas sur la durée.
Mais vous aviez une idée de ce qui allait vous attendre dans cette grande traversée de l'Afrique?
Non,
à pied.
Pas du tout.
Il valait mieux pas savoir.
Oui, il valait mieux pas savoir. Mais en fait, ça s'est très très bien passé, hein. Et c'était une immense bénédiction pour nous et pour notre couple, pour notre vie ensemble. Mais je le savais pas. Non, je pouvais pas imaginer. Il a fallu que je mette un pied devant l'autre pour que je réalise à quel point j'étais faite pour ça et à quel point j'aimais ça et à quel point ça me comblait.
Vous avez aimé ça? Vous avez vraiment senti que vous aimiez ça?
J'ai tellement aimé, vous pouvez pas savoir ce que j'ai aimé, cette traversée africaine. J'ai pensé que, en fait, j'avais peut-être été mise au monde et j'étais venue sur Terre peut-être que pour ça. Tellement j'étais comblée. Pourtant, Dieu sait si je pensais que je serais pas capable.
J'aime bien ce que vous venez de dire, j'ai été mise au monde pour ça. Votre idée était de marcher le long du Rift, marcher finalement dans les pas de l'homme, du sapiens qui s'est mis debout. L'homme est apparu là, c'est ce que l'on dit, en tous les cas après toutes les recherches qui ont été menées dans la vallée du Rift. Le sapiens, finalement, c'est un marcheur avant tout,
ah
Alexandre.
Oui, c'est comme ça qu'il est allé à la rencontre des autres, qu'il se nourrissait, qu'il se déplaçait, qu'il a conquis l'espace. Il suivait les troupeaux, et donc il était chasseur, et donc il transhumait avec les troupeaux sauvages, hein, pas encore domestiqués. Et donc il est obligé de se lever et de marcher, sinon il mourrait. Et donc l'homme est devenu nomade très rapidement. Et aujourd'hui, on a oublié ça, on a perdu ça. Donc on retrouve ça à travers le trekking, la marche, on retrouve ces choses qui sont très anciennement ancrées en nous. Cette fragilité, qui est une immense force. Parce que quand on part marcher, on est dépouillé de tout, on est léger, on fait une grande part de sacrifice et surtout on se met en danger.
On est léger, on ne peut pas faire autrement que d'être léger.
Oui. On ne peut pas emporter plus de 20 kilos sur son dos. Et déjà, c'est beaucoup trop. Nous, notre règle, c'était de ne pas dépasser les 7 kilos.
Eau comprise.
Mm-hmm.
Donc 7 kilos,
oui, 5
sur le dos,
kilos,
vous n'aviez pas grand-chose.
2 litres, plus, ouais, 5
rien.
Kilos. Rien.
Aucun vêtement de rechange.
C'est-à-dire que vous aviez uniquement le vêtement qui était sur
une
vous
chemise,
et vous l'aviez...
Et une jupe.
Avant de partir, on se prenait la tête sur le contenu du sac, on était là, étalés tout ça par terre chez nous pour voir qu'est-ce qu'on allait emporter. Et puis ce dimanche-là, à la messe, il y avait cette lecture, vous partirez deux par deux avec une seule tunique, un bâton de marche et une paire de sandales. Oh, merci Seigneur, le modus operandi. On s'est dit, voilà, une seule tunique, c'est une seule tunique. Alors les slips n'existaient pas à l'époque, alors on a pris 3 slips. C'était l'entorse aux écritures, 3 slips, 3 paires de chaussettes, mais une seule tunique, une seule chemise, un seul short.
Sur soi.
Pas
un autre de rechange.
Et
dans le sac.
Vous l'aviez, et là
à
où vous restiez
déjeuner,
presque nu pour vous laver.
On avait une tenue de nuit, un t-shirt de nuit. Mmh. Et donc quand on lavait notre linge, on était en t-shirt de nuit et caleçon de nuit.
Et ça, c'est vraiment la marche qui apporte ça. Si on voyage en vélo, par exemple, ou en moto, en voiture, j'en parle pas.
Alors, à vélo, on était un peu plus chargé. Et en fait, on s'est rendu compte qu'on a fait que se dépouiller pendant l'année qu'a duré le voyage. On est parti beaucoup trop chargé, avec 30 kilos de bagages. Et à la fin, on en avait peut-être 9. On appelait ça avec Sylvain les opérations de délestage. Et entre Téhéran et Paris, on avait tout jarté. On jartait les trucs. On jetait les sacs de couchage, les réchauds, les gamelles. Tout ce qui était le confort et la sécurité, on vivait comme des anachorètes, comme des starets, comme des sadous, comme des renonçants.
Et en marchant, encore plus.
Encore plus. Il y a une jubilation, il y a une sorte de jouissance jubilatoire de vivre en se libérant de tous les biens matériels et de toutes les contraintes. Le mouvement permet ça. Quand on est sédentaire, on est obligé d'avoir des choses. Et c'est des protections que l'on met autour de soi, c'est terrible. Quand on marche, on se décape, on s'allège.
Comme les nomades que vous avez rencontrés, parce qu'au cours de cette grande traversée d'Afrique, vous avez rencontré beaucoup d'hommes et de femmes. Et là, on va parler de la rencontre que permet la marche. Ces gens-là, les nomades, ont très peu de choses finalement.
Rien. Je me souviens, quand on était au Kenya ou même en Tanzanie, on a rencontré des populations incroyables qui c'était interdit même, presque, dans leur culture, de porter. C'était affreusement contraire à la loi que d'avoir des choses et de
poser
des choses.
C'est les ânes qui portent les choses.
On dit, mais il n'y a que les ânes qui portent des choses. Nous sommes des êtres humains, donc nous ne portons pas. C'est ça qui fait la différence entre nous et les animaux. Et nous, ça nous faisait rigoler, parce qu'ils nous regardaient d'un air critique, parce qu'on avait quand même un petit sac à dos avec 7 kilos dedans.
Mais c'était lamentable.
Mais c'était lamentable, c'était beaucoup trop déjà pour eux.
Marche et rêve, un podcast RCF proposé par Thierry Lyonnais.
Sonia et Alexandre Poussin, en Afrique, on marche beaucoup. Quand on voyage à travers ce pays, on voit beaucoup d'hommes et de femmes qui marchent, parfois sur des dizaines, des centaines de kilomètres pour se rendre au marché, pour aller chercher de l'eau. Mais quand on marche, on est pauvre. comment est-ce qu'ils réagissaient en vous voyant, vous, les Blancs, qui normalement êtes riches, être à pied comme des pauvres?
Alors c'était une énigme pour eux et ils mettaient quelques minutes à la résoudre en nous voyant arriver. Comment ça se passe l'Afrique? Qu'est-ce que c'est qu'un village africain? Un village africain, c'est traversé par une route et la nouveauté vient de deux horizons, les deux bouts de la route. Les choses tombent rarement du ciel.
Il n'y a que dans les yeux sont tombés sur la tête, voilà. Qu'il y a des bouteilles de coca
donc,
qui tombent du ciel.
Tout le village, toute la journée, a les yeux rivés sur les deux extrémités du village, les deux côtés de la route. Et donc là, il y a toujours quelqu'un qui regarde. Et là, il nous voyait arriver longtemps avant. Il dit, tiens, deux Blancs sur la route. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est un homme, deux hommes? Ah non, un homme, une femme. Ah, ils ont dû tomber en panne. Ou leur voiture est tombée en panne. C'est bizarre, ils n'ont pas de guide. Ah, ils se rapprochent un peu. C'est bizarre, ils ont des sacs à dos. Donc, ils n'avaient pas de voiture. Et ils n'ont pas de guide. Mais le prochain village, il est à 50 km. Il est 9h du matin. Où est-ce qu'ils ont dormi? Ils n'ont pas pu faire 50 km en 3h. Donc, ils ont dormi en brousse. Mais ils n'ont pas eu peur des lions, ils n'ont pas eu peur des hyènes, ils n'ont pas eu peur des serpents, tout ça. Et qu'est-ce qu'ils ont mangé? Est-ce qu'ils ont fait du feu? Et là, ils se rapprochent. Oh là là, ils ont l'air fatigués. Oh, ils ont l'air gentils. Qu'est-ce qu'ils viennent faire ici? Il n'y a rien à voir ici, il n'y a que nous. Peut-être qu'ils viennent nous voir, nous. Mais pourquoi ils viennent nous voir, nous? On n'a aucun intérêt. Allons à leur rencontre pour savoir pourquoi ils sont là. Donc déjà, tout le boulot est fait. Et donc, quand on se présente à eux, c'est eux qui viennent à nous. Caribou, d'où venez-vous? Bienvenue. Vous venez de... Que faites-vous? Où allez-vous? Asseyez-vous. Vous avez sûrement soif. Vous voulez... Etc. Donc là, le rapport a eu lieu avant qu'on ait eu à dire bonjour. Vous comprenez ce que je veux dire?
Oui, très bien. Mais ça veut dire que la marche, c'est le moyen idéal de rencontrer l'autre, si je vous entends.
C'est ce qu'il y a de plus respectueux.
Oui.
Pourquoi respectueux?
Parce que quelqu'un qui arrive en moto, qui fait du bruit, avec un casque de Terminator, des lunettes de killer et qui descend Dominator, et la moto s'appelle Dominator, ça facilite pas la rencontre dans l'humilité.
Ça crée la curiosité, en tous les cas pour les enfants.
Oui, mais c'est la mauvaise curiosité.
L'envie.
C'est où, vaza, vaza, farange, bir.
L'argent, pareil, là vous parlez malgache. Là.
Voilà, oui, éthiopien, malgache. Voilà. Donc dans tous les pays, c'est la même chose. Le Blanc, quand il débarque de son bus ou de sa voiture climatisée, c'est un gâteau à pâtes.
Et vous faites de marché, il vous demandait rien?
Ben non.
Il vous donnait?
Ben oui.
Alors,
ils nous accueillaient immédiatement.
C'est une façon d'inverser la relation.
Et ils étaient tellement reconnaissants, justement, qu'on soit des Blancs pauvres. Parce qu'enfin, on était à leur hauteur et enfin, ils pouvaient nous parler d'égal à égal. C'était incroyable, dans leurs yeux, on le voyait. Ils étaient pleins de reconnaissance. Ils nous accueillaient, ils nous nourrissaient, on discutait toute la soirée. On avait des échanges magnifiques.
L'échange devenait immatériel. Alors qu'eux-mêmes souffrent de ne pas avoir de relations amicales et normales avec les étrangers, et d'avoir que des relations mercantiles. Alors ça ne veut pas dire qu'on en profitait, on a ôté le pain de la bouche de personne.
Et vous avez accepté
l'hospitalité. Évidemment. Et de temps en temps, on essayait de la compenser en essayant de troquer un billet contre un repas. Et très souvent, c'était
mal vu. Ça.
Très mal vu, évidemment.
Honteux.
Un jour, au Zimbabwe, un policier en retraite, enfin pas en retraite, pardon, qui était mis en congé parce qu'il n'y avait plus de solde, il n'y avait plus rien, il attendait que la pluie tombe, il était là, c'était un électronicien en plus, policier électronicien, il réparait des radios, des télés. Et il nous invite, il était merveilleux. Dans sa maison, il y avait une photo de Jacques Chirac et une photo du pape. C'était incroyable. Ce gars, il s'appelait Richard. Il avait déjà une part de nous-mêmes, catholiques et françaises, chez lui. En plein cœur du Zimbabwe, un policier électronicien, un surréaliste. Et donc, on passe un énorme moment, merveilleux, d'échange, de partage, etc., en anglais. Et à la fin, on veut l'aider pour compenser tout ce qu'il a fait pour nous. Et il nous a dit ce mot incroyable. Il disait, mais Alexandre, tu n'as rien compris. Si tu m'achètes, la seule chose qui me reste, le pouvoir de t'accueillir et te donner et de partager un repas, qu'est-ce qui me reste? Il ne me reste plus rien. Ah, vous les Occidentaux, vous voulez toujours tout prendre à tout le monde. Oh, la claque que j'avais prise ce jour-là.
Oh,
Sonia et Alexandre Poussin, nous poursuivons notre échange sur la marche, et notamment la marche en lien avec le voyage, puisque vous êtes de grands voyageurs depuis pas mal d'années, notamment avec votre traversée de l'Afrique à pied, votre tour de Madagascar à pied, mais cette fois-ci avec une voiture à zébu et vos deux enfants. Je renvoie aux émissions Visage qu'on a pu réaliser ensemble, où vous m'avez raconté pas mal de ces aventures. Mais là, parlons vraiment de la marche. J'aimerais qu'on parle de la lenteur. Parce que, Alexandre ou Sonia, je ne sais plus, un jour, dans un de vos livres, vous aviez dit prendre le temps d'aller à la rencontre des hommes dans un monde qui tourne trop vite. En quoi la marche nous permet de ralentir, et donc en quoi ce fait de ralentir est bénéfique pour l'homme?
On ne peut pas aller plus vite que la musique, la marche. Ça ne s'accélère pas, ça ne s'abrège pas, ça ne s'évite pas. Marcher un kilomètre, c'est toujours dur, pour moi comme pour vous, c'est 12 minutes, voilà. On peut le faire en courant, mais on en fera beaucoup moins.
Pour faire un kilomètre, il faut à peu près 12 minutes.
Voilà.
Quoi.
Et on peut courir, mais on fera beaucoup moins de kilomètres. Donc c'est comme ça, c'est quelque chose qui est corrélé au temps et à l'espace. On retrouve, quand on marche, le véritable espace-temps naturel que l'on s'ingénie à trahir depuis le 19e siècle, enfin même avant, depuis la voiture à cheval. Raccourcir le temps, raccourcir l'espace, accélérer. Donc non, la lenteur, la charrette nous a permis, nous, de diminuer par deux la vitesse de la marche. On était à 2,3 km/h.
C'est-à-dire que vous étiez à Madagascar, avec votre charrette, là, plus lent.
Bah oui, parce que le zébu marche deux fois moins vite. Et donc, il y avait ce tombereau à pousser. C'était une épreuve qui a apporté énormément de fruits, parce que les gens sont encore plus attirés. Et on ne peut pas du tout leur échapper. Donc, quand il y a des foules de 3000 personnes autour de nous, on est obligé de se laisser porter. C'était le lâcher-prise total.
Ça, j'en vois à vos films, où on voit ces foules qui viennent autour de vous, au rythme du pas du zébu, même pas à votre pas humain. Mais pour vous, Sonia, la lenteur que vous avez découverte par la marche, parce que vous étiez une jeune Française occidentale, avec plein de projets, de désirs, vous avez fait cette grande marche de la traversée de l'Afrique. Et qu'est-ce que vous y avez découvert de savoureux dans cette lenteur?
Avec cette lenteur, il y a aussi la légèreté. C'est les deux choses qui vont de pair quand on marche. Et c'est ce que j'ai le plus apprécié dans ce voyage africain. C'est ce qui m'a le plus manqué. Et je pense que jusqu'à mon dernier souffle, c'est la chose que je rechercherai toujours, en tout cas que je regretterai, parce que je ne sais pas si je remarcherai encore dans les mêmes conditions, parce que le monde s'est un peu refermé, il y a plein de choses qui ont changé. Peut-être que j'aurais plus la force de marcher comme je l'ai fait précédemment. Mais c'est cette immense liberté. Donc cette lenteur, la lenteur, c'est la liberté. En fait, on s'affranchit de toutes les obligations, de tout.
On n'est pas obligé d'arriver.
On est hors du temps, on choisit de s'en sortir pour justement en rentrer encore plus dans le vrai monde. C'est ça qu'on remarquait dans ce voyage.
On ne peut jamais s'extraire du temps, mais on a une perception du temps qui est autre.
On le ralentit, et du coup, on y gagne en profondeur. La lenteur, c'est la profondeur. C'est comme ça, c'est mécanique.
Et donc c'est bon pour l'intériorité?
Mais oui, parce que vous voyez, par exemple, moi dans ce voyage, j'avais pas la foi quand je suis partie, quand j'ai traversé l'Afrique à pied. Et le fait de cette marche si lente, si belle, si profonde, où on rencontrait des gens extraordinaires, qui parfois avaient perdu tout dans leur vie, qui avaient des vies extrêmement difficiles, ou des femmes extraordinaires comme des religieuses qui nous accueillaient, et donc qui avaient tout donné. Cet exemple-là, être à leur contact, ça m'a touché le cœur. Et il se trouve que pendant mon voyage à travers l'Afrique, exactement à la moitié, au 7000e kilomètre, au bout d'un an et demi de marche, j'ai eu la foi qui m'est tombée dessus, mais sur le coin du nez.
Une expérience mystique, un peu,
complètement,
à la Pascal.
Et c'est le plus beau cadeau. Et je pense que ce cadeau n'a pu arriver jusqu'à moi que grâce à cette lenteur et cette légèreté et le fait de s'être délesté de toute mon occidentalité, enfin de tout ce qui faisait ce que j'étais une jeune femme occidentale venant de Paris, pas pauvre.
Et le fait de marcher, donc d'être dans ce rythme répétitif, aide à décanter, à laisser décanter à la fois toutes les rencontres que vous avez vécues.
Ça nous permet en fait, enfin, ce qu'on n'a plus le temps de faire dans nos vies de tous les jours, on est très 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 au taquet pour tout, ça nous permet en fait de méditer, de prier. Même quand je ne croyais pas en Dieu, je priais tous les jours. Donc quand même, j'étais quand même déjà un peu dedans, j'avais déjà un pied dedans. Mais je priais, c'est-à-dire je remerciais pour les journées magnifiques et les rencontres extraordinaires. Et je demandais à je ne sais pas qui, mais je m'adressais, j'invoquais En tout cas, je regardais vers le ciel quand même, donc je me doutais que c'était en haut que ça se passait. Et je demandais, aide-les, console-les, apporte-leur de l'amour, aide ces gens, aide ces gens qui sont si bons, qui ont été si bons avec nous et qui nous ont accueillis avec tant de générosité. Et ça, c'est cette marche, le fait d'être seul, de ne pas être brouillé par plein de réalités, plein de la télévision, la radio, toutes ces informations, le monde qui bouge, qui court, qui court après sa queue. Et ça permettait ce rythme merveilleux de la marche. C'est vraiment un rythme. Moi, je suis musicienne, donc c'est un rythme. Et ça fait rentrer la prière dans le cœur et ça fait rentrer l'amour pour le monde. On se reconnecte avec les éléments et on se reconnecte avec les gens.
Marche et rêve, un podcast sur les bienfaits de la marche et pour tous ceux que l'on vit de liberté démange.
Sonia Alexandre Poussin, pour ces podcasts sur la marche, j'ai rencontré beaucoup de marcheurs, mais solitaires. Vous avez marché en couple. Alors c'était un voyage de noces, je le disais, cette grande traversée de l'Afrique pendant 3 ans, un long voyage de noces de 3 ans. Mais en quoi la marche, je dirais, a souder votre couple? Ou parfois, excusez-moi, l'a peut-être menacé, non? Je
sais. En fait, tout seul, on s'ennuie assez vite. Alors, à passer les premiers mois de dialogue intérieur, on a vite fait le tour de soi-même. Alors, on engage la conversation avec les autres. Donc, on s'enrichit de l'altérité et de la différence. Mmh. C'est extraordinaire. Mais quand on est deux, après, il y a une dialogique qui peut s'opérer. Une dialogique, c'est-à-dire que deux dialogues, c'est triangulaire. Donc, on peut se parler à quelqu'un d'autre et puis après s'en parler ensuite. Donc là, la relation s'enrichit encore plus. Et donc, nous, on était un jeune couple, on était, on regardait dans la même direction, mais on se parlait beaucoup. On faisait que ça toute la journée, en fait.
Vous faites allusion à Saint-Exupéry. S'aimer, c'est regarder dans la même direction. Ouais. Vous étiez très amoureux à ce moment-là.
Bah, toujours. Et on a marché 14 000 km en regardant, en ayant le même objectif. On se regarde pas dans le blanc des yeux. Mmh. Mais on se parlait beaucoup. De temps en temps, j'essayais de lui échapper. D'ailleurs, j'accélérais le mouvement. J'y arrivais pas.
Parce que vous savez, dans les couples, souvent, ce qui fait que les couples échouent, c'est parce qu'il n'y a pas assez de communication dans le couple. Mmh. Enfin, je peux vous dire que nous, on en avait de la communication.
Je ne pouvais pas lui échapper.
Et donc, tous les vieux trucs, les vieux cadavres dans les placards, les trucs oubliés. Tu te souviens quand tu m'avais dit ça? Bah, tu vois, tu m'as beaucoup blessé quand tu m'as dit ça. Voilà, il ne pouvait plus échapper, le pauvre malheureux. Mmh. Et donc, on réglait les problèmes aussi.
En marchant.
On avait le temps. Bah oui.
C'est thérapeutique, là. C'est une thérapie de couple incroyable.
C'est bon pour le coup. Vous conseilleriez à des amis de partir
marcher ensemble? 100%. D'ailleurs, quand j'ai des amis dont le couple bat un peu de l'aile, je leur dis, mais allez donc marcher ensemble. Vous allez voir, ça va vous réunir, vous allez vous retrouver.
Sur plusieurs jours, pas simplement une petite promenade.
Sur
plusieurs jours.
Enfin, le tour du Mercantour, le tour du Mont Blanc, le GR20, enfin des trucs un peu péchus, quoi.
Des trucs qui durent une petite marche de
semaine. Avec des épreuves.
Oui, parce que les épreuves, ça soude.
Les gens ont des vies parallèles, ils vont au boulot de chacun de leur côté, ils gèrent leurs problèmes chacun de leur côté, ils se retrouvent le soir pour des problèmes à régler ensemble. C'est pas très fertile, ça peut pas très fécond pour un couple.
Alors,
la marche, c'est une retraite. Une retraite du monde et...
Des randonneurs, des grands marcheurs aussi que j'ai interviewés, disaient non, moi je préfère partir seul parce que deux, on est déjà un groupe. Et donc c'est plus difficile de rencontrer les gens que seul.
Oui, mais ces marcheurs-là, ils parlent un mois, 2 mois, 3 mois. Là, nous, on part 3 ans. On part 4 ans. Non. Donc on part pas seul dans ces cas-là, à moins d'être un réel anachorète, un mystique, un ermite.
Un sadou, quoi.
Pourquoi pas? C'est possible aussi. Il y a des gens qui sont naturellement très solitaires. Mais moi, je pense que la nature de l'homme n'est pas d'être solitaire. L'homme est nécessairement relié. Il est relié à soi-même, il est relié à son physique, à son corps physique. La marche permet de se reconnecter à son corps physique. Il est ensuite connecté aux autres, l'altérité. Ensuite, il est connecté à la nature. La marche, c'est une connexion au réel, à la nature, sortir de chez soi. Mmh. Il y a cette phrase magnifique que j'aime beaucoup, c'est « dehors guéri ». C'est extraordinaire. Dehors guéri. Guéri de tout. Sous-entendu, guéri de tout.
Dehors guéri.
Dehors guéri, c'est magnifique. Mmh. Chez soi, on ne peut pas guérir si on reste que chez soi, enfermé dans sa coquille.
Donc il faut sortir pour guérir.
Oui. Mmh. Dehors guéri. Et après, ultimement, la nature peut mener au-delà de la nature, c'est-à-dire le spirituel, le mystique, ce qu'on ne voit pas, l'invisible. Ce n'est pas nécessaire, mais c'est peut-être l'étape suivante. Et la marche y conduit aussi. On lève les yeux au ciel, on regarde les étoiles. C'est le premier australopithèque qui s'est posé des questions métaphysiques, était le premier religieux.
Sonia Alexandre Poussin, cette grande marche, cette grande traversée de l'Afrique, vous êtes partie du Cap de Bonne-Espérance, en Afrique du Sud. Vous avez marché 14 000 kilomètres pour arriver, non pas au Caire, mais pour arriver à côté du lac du Tibériade, au Mont des Béatitudes. Est-ce que c'était un pèlerinage, mais qui ne porte pas son nom, que vous avez fait ?
Ben oui. On marche pas innocemment de l'espérance aux béatitudes. C'est amusant parce que dans une messe de préparation qu'on avait eue avant de partir, le prêtre qui a fait une petite homélie a dit « Vous pensez partir de l'espérance pour arriver aux béatitudes, et vous arriverez aux béatitudes et vous rendrez compte que la neuvième béatitude, c'était peut-être celle, enfin la béatitude zéro plutôt, celle qui précède toutes les autres, c'était d'avoir l'espérance. »
Donc ça vous a pas donné envie de faire demi-tour et de refaire le trajet inverse et de redescendre
Peut-être, comme moi, Tessier. Si, peut-être un jour, on verra.
Donc c'était un pèlerinage. Mais moi, ma question,
c'était un pèlerinage dans les pas de l'homme, dans les pas du processus théilardien qui a fait de le processus d'hominisation qui est devenu un processus d'humanisation à la fin, avec la culture et la civilisation.
Vous faites allusion à Teilhard de Chardin et qui parle de la divinisation de l'homme qui s'oriente vers le point oméga.
C'est ça, la téléonomie, la direction, un sens. Alors c'est amusant parce que dans le rift, on voit la progression de toutes ces espèces préhumaines qui sont devenues de moins en moins simiesques et de plus en plus humaines, l'évolution. Et cette évolution, elle est dans le rift. Et à la fin du rift, c'est le lac de Tibériade. C'est comme un drôle de hasard. Où commence notre histoire? C'est ça qu'on célébrait, en fait. On a marché de Mrs. Pless, qui est un australopithèque comme Lucie, mais qu'on a trouvé en Afrique du Sud, jusqu'à Jésus et l'homme moderne. En passant par les grandes civilisations comme l'égyptienne, la nubienne, etc. Donc il y avait eu tout un processus, une progression dans la réflexion, en fait. Et d'un point de vue plus personnel, effectivement, c'est 3 ans. La première année, on l'a consacrée au Père. La seconde au Fils et la troisième au Saint-Esprit, en méditation.
Sonia et Alexandre Poussin, on le voit aujourd'hui, il y a des chemins de pèlerinage qui sont patentés, chemins de pèlerinage comme le chemin de Compostelle, la voie qui part de Vézelay jusqu'à Assise. Enfin, on a des chemins de pèlerinage qui sont reconnus comme tels. Et puis, il y a des chemins de randonnée où des hommes, des femmes vont marcher pendant plusieurs jours, plusieurs mois. Est-ce qu'il y a une différence ou est-ce que finalement, toute marche vraiment vécue est un pèlerinage?
Alors moi, c'est mon postulat. Oui. Une randonnée est un pèlerinage laïque. Mais sortir de chez soi, c'est un pèlerinage. C'est pérégriner. C'est sortir de soi. C'est sortir de son confort, de sa zone de confort. C'est se mettre en danger, se mettre en curiosité.
C'est aller vers l'autre. Immédiatement. Pour moi, c'est toujours un pèlerinage. Et là, on accompagne des groupes de marcheurs, justement, sur le chemin de Saint-Jacques. Et dans les groupes, parfois, il y a des marcheurs qui sont complètement athées. Et pourtant, on voit bien, au fur et à mesure du chemin, qu'il y a quelque chose qui commence à les habiter et qui commence à se poser des questions et qui sont touchés.
Et ça, c'est le phénomène du groupe ou c'est le phénomène de la marche?
C'est la marche qui procure ça.
On retrouve l'australopithèque qui est en nous et qui lève les yeux au ciel et qui se pose des questions. Déjà, se poser une question, c'est être en marche, c'est pérégriner.
On se pose mieux des questions quand on est sous un ciel étoilé.
Quand on est fragile. Quand on a faim, quand on est vulnérable. Quand on est
au milieu des éléments,
des éléments déchaînés,
de la pluie, du froid ou du
chaud,
on perd un peu, on devient humble tout d'un coup.
Il faut se mettre dans une situation de fragilité quelque part pour devenir plus humble.
Et quand on devient humble, on est prêt à recevoir et on est prêt à écouter, on est prêt à entendre, on est prêt à comprendre.
Il faut avoir eu soif, il faut avoir eu faim, il faut avoir eu froid, il faut avoir été tout mouillé, il faut ne pas avoir su où j'allais dormir ce soir. Mais vous mettez Bill Gates, vous mettez un puissant dans ces conditions-là, il va devenir comme un agneau. Il va devenir très gentil tout de suite. Pas tout de suite, non, il va lui falloir quelques kilomètres, 30 kilomètres, sans manger, sans boire. Là, tout de suite, tout le monde est gentil.
Ça serait tellement simple si on emmenait marcher tous les grands de ce monde.
Oui.
Hein, il faudrait qu'on organise.
Il faudrait faire ça, ça leur ferait beaucoup de bien.
Ça baisse l'orgueil, ça rabat l'orgueil.
Une dernière question, Sonia et Alexandre Poussin. Comment on revient d'une marche pareille? Comment a été votre retour au quotidien après cette grande traversée de l'Afrique ? par exemple.
On revient dépositaire d'un trésor. Nous, c'est notre métier, on est comme vous, on est reporteurs.
Écrivain voyageur,
donc
films.
On part chercher des pépites et après on passe du temps nécessaire à la restitution, au partage. Donc là, maintenant, on est dans le partage, l'écriture et le partage via des conférences et des témoignages de tous ces trésors.
Ça, c'est le côté, allez, je veux dire, professionnel, on va dire. Mm-hmm.
Mais vital, c'est important. C'est notre vocation, c'est notre métier, c'est notre vocation.
C'est de rendre compte, de partager votre expérience.
Si je ne pouvais pas témoigner, partager, j'aurais pas envie de voyager.
C'est quelque chose d'égoïste et d'affreux. Mm-hmm. En fait, il n'y aurait plus de sens au voyage. Tous les voyages qu'on a fait, c'est pour aller à la rencontre des autres. Mais après, c'est pour pouvoir en témoigner auprès justement de ceux qui n'ont pas... ou la chance, ou le temps, ou la volonté d'aller attraper des puces, comme on l'a fait pendant 3 ans. Vous savez, dormir pendant 3 ans par terre.
Ça, je disais, Alex, il y a un prix à payer.
Ah oui, ce que je disais, Alexandre, il est extraordinaire, parce que le plus grand exploit, c'est qu'il a quand même réussi à me faire dormir par terre pendant 7 ans de ma vie. Mm-hmm. J'ai dormi par terre, vous voyez, sur le sol, dur. Hein.
Et ça, vous n'imaginiez pas que vous en étiez capable.
Ah non, en tant que Parisienne, non. Mais voilà, C'est pour ça que ce voyage est tellement important pour nous. Et parfois, on peut avoir du mal à en parler parce qu'on peut avoir, on peut être un peu attristé de pas réussir à le communiquer. Mais l'objectif de ce voyage, c'est de pouvoir en parler. Et c'est vrai, comme Alexandre le disait, que c'est un vrai trésor. Et dans les moments difficiles, dans les moments d'épreuve, parce qu'on en a aussi, évidemment, et quand on retourne dans la vie normale, eh bien, nous aussi, on a des factures à payer, nous aussi, on a des soucis avec nos enfants, on a une fille ado qui n'en fait qu'à sa tête, qui nous en fait voir toutes les couleurs. Mmh. Heureusement qu'on a ce trésor pour nous nourrir et pour nous consoler et pour nous permettre de faire le dos rond en disant ça ira mieux plus tard. De toute manière, tout ce qu'on a dans notre cœur et qu'on a emmagasiné, personne ne nous le retirera.
Et c'est plutôt rassurant pour l'humanité, qui est plutôt déprimante quand on voit les actualités. Les nouvelles sont pas nouvelles, en fait, elles sont faisandées et c'est toujours les mêmes. Et être porteur de ce trésor, on a une responsabilité de le partager, parce qu'on a touché du doigt le plus petit commun dénominateur de bonté, d'humanité, d'hospitalité, d'accueil, de spiritualité, de beauté de l'homme. Mon Dieu, que l'humanité est belle!
Merci, c'est sur cette phrase d'amour pour l'humanité que nous allons nous quitter. Je renvoie bien sûr à tous les livres que vous avez publiés, Africa Trek, qui raconte justement cette grande traversée de l'Afrique, puis Mada Trek, votre aventure. Je sais que vous êtes en train d'écrire le 2e tome de Mada Trek. Merci beaucoup, j'ai été ravi de faire un petit bout de chemin avec vous.
Merci Thierry.
Merci Thierry.
Vous venez d'écouter Marche et rêve, un podcast produit par RCF. Pour découvrir d'autres parcours de marcheurs, rendez-vous le mardi à 8h sur notre site rcf.fr ou sur votre plateforme de podcast préférée. N'hésitez pas à faire connaître ce podcast autour de vous en le commentant, le partageant ou en laissant des petites étoiles sur les plateformes. Et puis il y a aussi tous nos autres podcasts que je vous recommande, Souffle de vie, Les colères de l'abbé Pierre, La Fontaine et d'autres à découvrir partout, tout le temps, même en marchant. Bonne écoute et à très bientôt au détour d'un sentier ou sur les ondes.